je vais vous parler d'Open Document Format. Et en fait, on va donc beaucoup parler d'interopérabilité. L'interopérabilité, c'est quelque chose qui devrait éviter ce genre de galère avec des matériels différents. Je vais axer la présentation sur les intérêts un peu stratégiques et politiques d'Open Document Format et pas trop sur le contexte technique des formats XML sous-jacents. Donc je suis Jérôme Dumonteil, je travaille dans un petit cabinet de conseil en stratégie qui s'appelle Ars Aperta et qui est membre du consortium Oasis qui a défini cette norme Open Document. Alors, Open Document est un format de fichier pour les documents bureautiques, c'est-à-dire il vise à pouvoir stocker sur un disque dur tout ce qui sort d'un traitement de texte, d'un tableur, une présentation. Donc cette présentation est en format Open Document. Enfin là, j'ai chargé le PDF en l'occurrence, mais je l'ai travaillé et sauvé sous un format Open Document. Open Document a été élaboré par un comité technique du consortium Oasis. C'est une structure internationale à laquelle collaborent tous les grands noms de l'informatique et des grands utilisateurs. Spécifiquement sur le format Open Document, sont intervenus Sun, IBM, Intel, Adobe, Novell, mais également des communautés du logiciel libre, des intervenants par exemple de KDE et d'OpenOffice. Et notre petit cabinet, et un certain nombre d'experts dans le monde. Les travaux d'Open Document Format sont basés initialement sur le premier format de fichier d'OpenOffice.org, donc qui bénéficie de toute l'expérience d'OpenOffice. Le nom, vous allez m'entendre prononcer de différentes manières. Le nom officiel, c'est ce qui est écrit en bas de la planche, c'est Open Document Format for Office Application. Donc on dit soit Open Document, soit Open Document Format, soit Format Open Document, soit ODF. Ça, c'est pas encore trop stabilisé sur cet aspect-là, suivant les interlocuteurs, on voit un peu de tout. Ce format de document a quelque chose de très très particulier par rapport à d'autres formats de fichiers. Depuis deux semaines, il est devenu une norme ISO internationale. C'est assez rare pour un format de fichier. Les normes sur lesquelles il repose sont d'autres normes qui sont par exemple UTF-8, XML, ce genre de choses, parce qu'il réutilise pas mal de normes existantes, histoire d'être à peu près cohérent et complet dans l'absolu. La spécification complète est publiée. Quand on dit qu'elle est librement consultable, il ne faut pas oublier qu'on parle d'un document de 700 pages composé de schémas XML. Donc c'est un peu théorique de dire que tout le monde peut la consulter. Néanmoins, ça permet à un certain nombre d'applicatifs d'utiliser ce format documentaire. Donc OpenOffice, évidemment, mais également les offres de Sun et d'IBM, et les outils KDE, Abby Word, etc. Donc un certain nombre d'outils commencent à utiliser ce format ou l'utilisent depuis longtemps. Enfin, la dernière chose à savoir, c'est qu'il a été conçu de manière à durer un certain temps, à être pérenne et à reposer sur des standards actuels. Donc c'est une création assez qui se veut assez pertinente et avec une volonté dès les départs, dès les objectifs, d'interopérabilité et de pérennité. Alors, sur toutes ces questions-là, je vais poser quelques définitions, histoire de bien préciser de quoi on parle. L'interopérabilité, c'est un mot qu'on voit apparaître de plus en plus de tous les côtés. C'est le fait, pour plusieurs systèmes, qu'ils soient identiques ou vraiment différents et qu'ils aient été conçus ou non dans l'objectif de se parler deux à deux, de pouvoir quand même communiquer sans ambiguïté et travailler ensemble. C'est le cas le plus fréquent pour les systèmes analogiques et certains systèmes informatiques simples. On ne se pose pas la question de est-ce que ça va marcher quand, par exemple, on parle dans un micro. Quand on téléphone, en principe tous les téléphones fonctionnent ensemble et quand on allume un poste de radio ou une télévision, ça reçoit des signaux et c'est censé fonctionner du premier coup. On ne se pose pas la question de l'adéquation de la marque du récepteur avec la marque du signal. Donc on parle là de systèmes réellement interopérables. En principe, quand vous prenez une ampoule et que vous la pluguez dans une lampe, elle marche. Donc l'interopérabilité sur les systèmes complexes, en pratique, ça repose sur des standards. Et plus ces standards sont ouverts et massivement utilisés, et plus cette interopérabilité, je dirais, est de bonne qualité. Et là, on a eu un exemple d'une interopérabilité, en général, ça marche, mais en pratique, ça marche très mal, c'est les rétroprojecteurs. Si vous sortez des matériels standards, vous avez des soucis, c'est ce qui s'est passé avec cette machine. Donc j'ai dit que l'interopérabilité reposait essentiellement sur des standards ouverts. Je vais utiliser plusieurs mots comme normes, standards ouverts. Standard ouvert, c'est quelque chose qui maintenant est très précis, parce que depuis quelques années, ça a même été défini dans le cadre de la loi française. On entend par standard ouvert tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange et tout format de données interopérable donc, et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise en œuvre. Donc c'est les choses à savoir, c'est que c'est les deux aspects clés d'un standard ouvert, c'est que ce soit public, c'est-à-dire que tout le monde peut y accéder sans avoir à adhérer à quelque chose ou à payer quelque chose et qu'on peut utiliser le standard en question pour faire ce que l'on veut, mais éventuellement même sortir une version modifiée. Il n'y a pas de brevet qui tienne sur ce standard, il n'y a pas l'obligation de le réserver à certains usages ou de payer quoi que ce soit. Un standard ouvert, qu'est-ce que c'est ? Il y a un exemple qui aurait pu être assez dramatique, enfin, qui a été dramatique par certains aspects, mais ils ont un peu surconvolu le problème. Lors des grandes inondations de la Nouvelle-Orléans, ils sont aperçus de quelque chose d'assez critique. Ils ont appelé à la rescousse dans les premières heures des pompiers qui venaient de tous les comtés alentours et des grosses villes autour. Comme là-bas, il y a beaucoup d'indépendance des différentes villes, qu'il y a des marchés assez compliqués pour équiper les pompiers, il se trouve que les vannes des tuyaux et les lances incendies des pompiers étaient réalisées par des fabricants différents. Et qui, pour conserver le marché, s'était amusé à ne pas faire les mêmes diamètres de tuyaux et les mêmes systèmes de mêmes diamètres de connexion pour les tuyaux des lances des pompiers. Et ils s'en étaient pas aperçus pendant des années. Ça permettait de garantir l'équipement complet, de ne pas perdre une partie du marché. C'est le jeu habituel de certains fournisseurs. Là, en l'occurrence, quand en urgence ils ont essayé de ramener quelque chose qui n'était pas censé se produire des pompiers de tous les secteurs. Ils sont tombés face à un gros problème, c'est qu'ils ne pouvaient pas partager leur matériel. Donc un standard ouvert, ça vise à éviter ce genre de petite catastrophe. Bon, en l'occurrence, après, ils ont envoyé l'armée, donc ça allait. ils sont sortis par le haut, on va dire. Pourquoi veut-on de l'interopérabilité et donc des standards ouverts dans le logiciel maintenant ? C'est lié à une évolution de l'usage des documents bureautiques. Il y a environ jusqu'à 10-15 ans, un fichier texte qu'on tapait dans un traitement de texte, ça avait un usage principal, c'est d'aller à l'imprimante. C'est-à-dire qu'en pratique, ce que vous tapiez dans un traitement de texte, c'était un brouillon, ça sortait pas de votre bureau, et le véritable outil d'échange, c'était la feuille imprimée. Peu d'informations ont été numérisées, donc en l'occurrence, et l'informatique était faiblement connectée. Aujourd'hui, le format principal d'échange d'informations n'est plus le papier, c'est directement le fichier lui-même qui transite, que ce soit par Internet, par des mails ou par des liaisons spécialisées dans les entreprises. Cette très forte croissance des échanges numériques amène à une nécessité de pouvoir lire à peu près partout un document. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui de manière générale. Un autre exemple qui lui a été un peu plus catastrophique, ça a été le tsunami qu'il y a eu en Thaïlande il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, où dès les premières heures, le gouvernement thaïlandais a reçu des secours du monde entier. Et ils ont commencé, ces secours, à essayer de faire de l'identification des personnes qu'ils trouvaient, de remplir des formulaires pour récupérer les gens et travailler ensemble. Et ils n'ont pas réussi. Les formats documentaires qu'ils utilisaient n'étaient pas compatibles deux à deux, aussi bien pour des questions de format de fichiers que de compréhension des jeux de caractères différents. Donc j'ai un papier là qui résume ce qui s'est passé. La conséquence est qu'en urgence, le gouvernement a dû monter un site web unique et que tout le monde a laissé tomber ses portables parce que tout le monde maintenant sur un théâtre d'opération arrive avec un ordinateur portable et tout le monde a dû se connecter sur un site web créé pour l'occasion. Et c'est devenu une tâche nationale du gouvernement royal de Thaïlande d'aller vers les standards ouverts et de forcer son administration à utiliser, et tous les gens qui sont en contact avec son administration, des standards ouverts de documentation. Parce qu'en gros, ils ont perdu 2 jours à essayer de récupérer des listes de personnes disparues en fonction des différentes équipes d'intervention locale. Donc c'est à peu près la même histoire que les pompiers de la Nouvelle-Orléans. Simplement, là, c'est vraiment une question d'interopérabilité informatique qui les a bloqués pendant quelques heures. Là aussi, c'est des cas extrêmes, mais on a tous retrouvé un document qu'on avait du mal à lire, ce genre de choses. Et c'est, cette partie-là est beaucoup plus importante, parce qu'au niveau international, cette difficulté à lire un document ou à se relire sur un autre ordinateur finit par coûter des milliards d'euros en désagréments pour les entreprises quand on met ça bout à bout. L'autre aspect de la capacité à avoir un document interopérable, c'est quelque part d'être interopérable avec soi-même dans le temps. Et le format Open Document Format vise à assurer une pérennité des données pour au moins 30 ans. Alors, on dirait à quoi ça sert de pouvoir se relire dans 30 ans ? On pense que dans le futur, ce sont des délais minimums pour tout document, parce que bon, ça laisse le temps de les convertir un jour dans un format futur, dans les dizaines d'années qui viennent. Beaucoup de données maintenant qui n'étaient pas informatisées il y a quelques années le sont. Ce soit des données administratives ou commerciales, ou des documents de maintenance d'infrastructure, par exemple. Ici, on est à la Villette. Ce bâtiment, il devrait tenir 30 ans. Donc on peut imaginer qu'il y a des documents qui sont des plans numérisés, des chemins de câbles, des modes opératoires ou d'évacuation, qui existent bien sûr parce que c'est une obligation légale sous forme papier, mais qui sont en pratique utilisés par les personnes venant intervenir ici sous forme numérique. Et peut-être qu'un de ces documents n'a pas été utilisé pendant 5-6 ans. Et le jour où quelqu'un voudra intervenir dans le bâtiment, on ne parle pas de questions d'urgence, juste pour savoir où sont les murs à repeindre par exemple, il va se retrouver face à un fichier numérique. D'où on trouve très couramment des besoins de prévoir la conservation très long terme des documents. Ensuite, on sait que la durée de validité d'une information est très souvent beaucoup, beaucoup plus longue que la durée de vie des outils de lecture associés. Donc l'exemple trivial, c'est la musique, où on ne sait finalement, les œuvres de Bach ou de Mozart, on ne sait plus exactement le son réel qu'elles avaient, mais on a quand même conservé les partitions. Les instruments de musique évoluent plus vite que la musique elle-même. On retrouve évidemment toutes ces questions-là qui vont émerger sur les questions de bibliothèque numérique, ce genre de choses, où là aussi, on aimerait pouvoir se relire dans quelques dizaines d'années. Pour un particulier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on commence à avoir, pour chacun d'entre nous, des documents sur notre ordinateur. Et je vous pose la question, avez-vous sur votre ordinateur, chez vous, des documents que vous espérez relire dans 5 ans ? Alors, les photos, c'est évident, mais de plus en plus, on a des textes qu'on aimerait relire dans 5 ans. Et la grande question, c'est pensez-vous que vous êtes équipé pour les relire dans 5 ans ? Quelle garantie avez-vous là ? Alors, pour un particulier, ça peut être très, très agaçant. Pour un gouvernement, ça peut être catastrophique. Parce que là, on touche à des questions de propriété et d'indépendance en pratique. Qui possède le document qui est votre sur disque dur ? Ben, celui qui peut le relire dans 5 ans. Alors, c'est une autre raison de se fixer des objectifs de type on veut pouvoir relire un document pendant les 30 prochaines années. D'autres enjeux à avoir un standard ouvert sont des enjeux qui concernent le rapport entre les particuliers, les citoyens, et leur administration, qu'elle soit centrale, locale, ça peut être un gouvernement ou pourquoi pas une grosse entreprise même qui essaierait d'appliquer les mêmes principes. L'administration vise à être neutre dans ses échanges avec le citoyen. Elle se refuse, elle ne peut pas exiger l'emploi d'un système d'une marque particulière pour communiquer par exemple. sauf cas très très particulier justement. Elle ne reconnaît donc que des standards publics, standards ISO notamment, et elle ne peut en aucun cas privilégier un fournisseur par rapport à d'autres sur des choses standards. Donc quand vous remplissez une déclaration papier, vous utilisez le stylo que vous voulez. On ne va pas vous demander, alors on peut vous dire, essayez d'écrire en noir et si possible au stylo bille, mais on ne va pas vous dire utiliser un stylo bic. Oui, Java est censé être une norme, il y a plusieurs implémentations concurrentes. Alors c'est un peu compliqué parce que Java c'est un cas limite, mais Java essaye d'être un standard. C'est un cas très 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 limite, mais ça pose un problème. Beaucoup de gens refusent de ou ne peuvent pas tout simplement se connecter à cause de contraintes techniques de cet ordre-là. Il aurait pu être souhaitable qu'on fasse autre chose qu'un système Java, que d'obliger d'avoir une machine Java virtuelle sur les machines du client. Peut-être qu'un jour ça fonctionnera avec des architectures SOA, Ajax ou je ne sais quoi. Pour chacun, on a aussi intérêt à échanger des informations dans un format largement reconnu. Bon, c'est une question de confort et d'efficacité dans la communication interpersonnelle de chacun. Et ce qui ne veut pas dire que tout le monde doit utiliser le même outil. Là encore, on parle du document qu'on échange. Et en fait, en pratique, plus on va vers des standards ouverts, et plus ça laisse la liberté à chacun de choisir l'outil qui lui convient. Parce que, par exemple, il a un ordinateur différent des autres, parce qu'il veut un outil très raffiné, ou au contraire, il veut un outil très très simple, il veut se payer le truc le plus rapide, ou rester avec un outil qu'il connaît depuis des années. En pratique, utiliser des standards ouverts devrait faciliter et laisser le choix plus large dans le choix de l'outil. C'est un paradoxe, mais c'est le cas. J'avance des choses qui ne sont pas aisément vérifiables. On peut dire par exemple, si en format d'image, si vous dites que vous utilisez toujours des images JPEG, à peu près tous les appareils photo sont capables de fournir des images JPEG, JPEG étant une norme. Maintenant, si vous êtes très précis dans votre format d'image et que vous voulez un format Kodak, quelque chose, ou le format Sony, machin, vous allez en fait être très précis dans le format, prendre un format qui est non standard, et en l'occurrence, vous ne pourrez pas choisir l'outil. Donc, plus vous utilisez un standard commun en termes de format de fichier, et plus vous êtes libre de choisir la marque d'appareil photo que vous voulez. C'est la même chose pour les documents bureautiques. Donc, aujourd'hui, comme vous le citiez, on déclare nos impôts en ligne. On a de plus en plus donc d'applications qu'on appelle dans le jargon du métier du e-gouvernement, c'est-à-dire toutes les interactions entre une administration et les citoyens à travers d'outils informatiques en réseau. Il y a également une forte croissance du commerce en ligne. Le commerce en ligne a des besoins également de standards et peut imposer ou ne pas imposer certains outils aux consommateurs. Et il apparaît là aussi que les enjeux financiers au-delà des enjeux démocratiques sont énormes. Ils sont de deux natures. Si tout le monde utilise pour certaines technologies des standards ouverts et communs, ça améliore globalement le montant des transactions et la capacité de faire du commerce. Donc c'est globalement bon pour l'économie. Par contre, à titre individuel, chaque entreprise qui fournit un service sur Internet peut avoir un intérêt particulier à restreindre l'accès à ses concurrents à ce service et donc à utiliser des standards qui ne sont pas ouverts du tout. Donc l'optimum économique pour une entreprise n'est pas forcément l'optimum global pour la société. Bon, là après ça devient très compliqué en fonction des cas d'application. Mais c'est des enjeux assez importants d'un point de vue financier sur le long terme. Donc par rapport à tous ces documents, je vais vous montrer en quoi Open Document Format améliore la situation. Et ce qu'il faut savoir, que Open Document et aujourd'hui n'est pas un objet très connu médiatiquement. On utilise des traitements de texte en standard qui sont beaucoup moins qui n'utilisent pas ce format-là. Néanmoins, des choses comme les gouvernements de plusieurs pays, l'Europe, IDABC. IDABC, c'est la structure européenne qui s'occupe des questions informatiques et des relations entre l'Europe et, d'une manière générale, les citoyens ou les entreprises, en termes d'échange de données. Donc IDABC, en gros, c'est le service informatique de la Commission qui est en charge de traiter, je dirais, l'extérieur, les liens avec l'extérieur pour l'Europe. Eux sont très 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 demandeurs d'une standardisation de tout ce qu'on peut avoir comme échange. Parce que quand on gère 25 pays, c'est déjà pas simple, il faudra au moins qu'on ait des formats documentés. Eux ont apporté leur soutien du format Open Document à travers plusieurs études et une demande de normaliser sous forme ISO pour qu'ils puissent l'exiger dans les appels d'offres futurs. Donc il devrait y avoir une forte montée en charge de l'usage de ce format documentaire dans les mois et les années qui viennent. C'est pas si simple que ça. Il faut conserver les formats hérités du passé en parallèle. Il n'est pas question de jeter les anciens documents quand même. D'autres États, et ce qui est très intéressant pour nous, des États américains, parce que d'aucuns pourraient... Il y a un deuxième aspect qui est l'indépendance de l'Europe par rapport à des solutions informatiques venant des États-Unis. C'est aussi d'autres enjeux stratégiques pour l'Europe. Mais on peut remarquer que les enjeux du format Open Document sont tels que les questions d'égalité d'accès aux services de l'administration pour les citoyens sont aussi des considérations qui ont été... mise en avant par l'État du Massachusetts et en ce moment l'État du Minnesota pour prendre la décision de migrer à partir du 1er janvier 2007 tout leur système de documentation interne vers Open Document Format. Pour les mêmes raisons, pérennité de l'information pendant 30 ans, il est notamment question chez eux de traiter des données d'état civil, donc là on souhaite pour tout le monde qu'on en ait besoin un certain nombre d'années, et d'avoir des échanges avec leurs citoyens qui n'exigent pas une marque particulière de traitement de texte. C'est là-dessus qu'ils ont beaucoup insisté également. Donc les États américains qui migrent vers cette solution-là. En France, et en ce moment, un référentiel général d'interopérabilité est proposé à la lecture au public et précise dans énormément de ces chapitres des questions d'outils techniques. Donc là, j'ai pris le chapitre numéro 25 dans lequel il est marqué, il est recommandé d'utiliser le format Open Document pour les échanges de documents bureautiques, etc., etc. Et j'ai les autres chapitres qui précèdent et qui suivent, ça va même beaucoup plus loin. Il est recommandé d'utiliser des formats de documents reposant sur l'utilisation d'XML et dont les spécifications sont publiques et libres de choix pour les échanges de documents bureautiques semi-structurés. Il est obligatoire d'accepter tout document au format Open Document pour les échanges de documents bureautiques semi-structurés. Cela est très, très intéressant. Ça voudrait dire, par exemple, que dans tout ce qui relève de l'administration publique, si ce référentiel était appliqué, il y aurait une règle qui dirait que l'administration serait obligée d'accepter tout document de ce format-là dans les années qui viennent. Ça risque de ne pas être si simple que ça en pratique, mais ça montre bien une volonté politique par rapport à ces enjeux-là, d'utiliser une norme ISO comme format documentaire. Plus amusant, il est interdit de faire une migration depuis le format bureautique couramment utilisé par une organisation vers un format autre que le format Open Document. C'est un ensemble de règles comme ça qui sont assez subtiles, qui sont en train d'être donc validées par la... Non, ça comprend également les graphiques simples et deux, trois autres formes derrière un peu plus spécifiques. Je dois avoir la liste quelque part. Ça correspond à... C'est beaucoup plus large que le simple traitement de texte et le tableur. Simplement, au-delà de ces principaux formats-là, on peut se retrouver avec des formats FIS. Par exemple, dans Open Document Format, il n'y a pas un format pour gérer les images. Il y a un endroit où on va récupérer des JPEG, des bitmaps, du PNG. Donc c'est des poupées russes, certains de ces formats. Donc par exemple, pour la gestion des dessins, on va se retrouver à accepter comme composant d'autres normes comme le SVG ou ce genre de choses, des normes vectorielles pour stocker les informations de schémas, par exemple. Je vais voir par là la liste des extensions. Donc ça se veut OpenDocument gérer très largement tout ce qui est le format du commentaire dit bureautique. Donc je vais juste après ça vous montrer comment fonctionne en pratique ce format. Voilà. Alors, OpenDocument, en fait, c'est un format gigogne qui est constitué à l'intérieur d'un fichier, bon, on va appeler .odt qui est pour les fichiers texte. C'est ce qu'on appelle un format XML et il est zippé. Alors zippé, ça sert d'une part à le compresser pour que ça tienne moins de place et d'autre part à réunir plusieurs petits fichiers sous un document commun. Alors, XML, c'est un format texte qui est donc facile à lire et à modifier et qui est encadré par des balises un peu comme le HTML. Donc je m'excuse s'il y a parmi vous des gens qui connaissent XML parce que c'est un peu succinct comme rappel technique, mais en gros c'est un fichier texte bien pensé qui également obéit à un certain nombre de normes très précises. La force d'Open Document Format, c'est donc d'utiliser de manière sous-jacente des choses qu'on sait qu'on pourra lire dans plusieurs dizaines d'années et de séparer de manière très, très marquée le contenu, c'est-à-dire le texte par exemple pour un fichier, une note de service, un texte écrit, et la présentation, c'est-à-dire les styles utilisés, police de caractère, mise en page, ce genre de choses. En pratique, c'est séparé entre quatre fichiers principaux, dont les noms rappellent ce qu'ils veulent dire. Il y en a un qui contient le contenu écrit, l'autre contient des méta-informations. Alors les méta-informations, c'est par exemple quand ça a été écrit, combien de temps l'auteur est resté sur le texte, quel était son nom, quel est l'outil qu'il employait, ce genre de choses. C'est des méta-informations, c'est des informations sur le document lui-même, mais n'étant pas le document lui-même. Ensuite, un troisième fichier qui contient la configuration dans laquelle le document a été créé ou vise à être présenté, tout simplement la taille de l'écran, est-ce que c'est un format A4, est-ce que ça doit se lire à l'horizontale, ce genre de choses. Et enfin, quatrième document qui contient les styles, la définition de tous les styles, gras souligné, ce genre de choses. Il y a un ensemble de quelques fichiers supplémentaires et notamment un dossier pour les images, ce genre de choses. Les images, a priori, sont du JPEG, mais aussi bien du BNP, du PNG ou d'autres formats ouverts. Le bitmap étant un peu particulier, il est converti en PNG pour des questions de compression. Mais les images, a priori, ne sont pas modifiées, par exemple, par ce format. Alors, j'ai marqué exemple, parce que je vais sortir de la présentation. Je viendrai faire la conclusion après. Et je vais vous montrer quelque chose. Quand je dis qu'on peut récupérer le fichier, il est évident qu'on peut, donc, à travers la norme, ouvrir la norme et développer un utilitaire qui lit ou qui écrit du format OpenDocument. Donc cette présentation a été faite avec un outil qui gère, qui permet de faire des présentations, et je l'ai stocké et créé en format Open Document Format. Et ben, je vais l'ouvrir. On se place, on est en 2020, mon ordinateur finit par tomber en panne, et plus personne ne sait écrire un traitement de texte qui lise ce format-là. Donc on voit ce que je fais à peu près, bon, c'est pas terrible. Donc, je vais sur le bureau. Je vais dézipper donc le nom de ma présentation, donc c'est un format ODP là en l'occurrence, enfin, c'est le format par défaut des présentations pour OpenOffice. Voilà. Je viens de le dézipper, je peux même virer cette fenêtre. Et voilà, ça m'a ouvert mon fichier de manière lisible et on retrouve les différents éléments. Dans le répertoire des images, je me retrouve avec, voilà. Et si je modifie cette image là-dedans, que je referme le fichier, j'ai modifié ma présentation. Et surtout, ce qui vous intéresse, vous, en tant que particulier, on se place en 2020, vous avez juste récupéré une vieille clé USB dans une malle avec votre document écrit 20 ans avant. J'ai le fichier content.xml. Voilà. Je l'ouvre brutalement avec l'éditeur de texte par défaut qui m'a juste viré les balises XML pas très jolies. Et je retrouve de manière à peu près lisible, bon, quand on enlève la présentation et les balises, mais c'est le texte, on reconnaît le texte de ma présentation. Si dans 20 ans, j'ai dans le bureau un stagiaire capable de faire quelque chose avec ce fichier-là, parce qu'on aura des outils fantastiques. Ouais, il n'y a pas grand-chose de lisible. Et normalement, je récupère mes styles, les méta-informations. Voilà. On voit que j'ai utilisé tel outil à telle heure pour faire le fichier, etc. Donc, c'est physiquement, c'est tangible, c'est un format ouvert. Même sans outils particuliers, on peut atteindre le contenu de manière relativement simple. J'ai pas dit que c'était confortable, j'ai dit que c'était simple. Et c'est ce qui fait la force sur le long terme de ce format. C'est une norme ISO, on peut en permanence vérifier qu'on est conforme à la norme ou pas. On utilise des formats texte lisibles, ce qui garantit que dans 30 ans, grosso modo, on pourra toujours accéder, même de manière un peu simpliste, au fichier. Ce qui revient à dire que c'est assez simple, si on peut le faire à la main, de faire un outil qui le fait, évidemment. Voilà. C'est la différence par rapport à des formats fermés. Je vais revenir à ma présentation. Je vais l'ouvrir. Tiens, je vais même l'ouvrir, tant qu'à faire. Voilà, donc je vais apprendre à passer aux questions et à des informations complémentaires si vous voulez. Je vais vous proposer quelques conclusions sur ces formats-là. Déjà, la première chose, c'est ne pas oublier la raison pour laquelle beaucoup de formats informatiques aujourd'hui ne permettent pas comme ça d'y accéder de manière naturelle. C'est essentiellement lié à l'histoire de l'informatique. Encore une fois, le fait qu'on n'en avait juste pas besoin il y a 10 ans, et que maintenant, comme on sait faire des formats de manière un peu intelligente, on peut élaborer des choses comme Open Document. C'était simplement, aujourd'hui, on est obligé d'utiliser d'année en année des formats qui ont grossi et qui sont abîmés et qui n'étaient pas pensés pour ça au démarrage. C'est une des raisons. Et c'est relativement simple de faire des choses comme Open Document aujourd'hui, avec les connaissances qu'on a aujourd'hui. Ça aurait été très compliqué d'y penser il y a 20 ans. Je crois. Aujourd'hui, par contre, chacun, particulier comme entreprise ou une administration, peut aller vers ce format Open Document pour maîtriser et pérenniser ses contenus. C'est très important. On n'est plus obligé de rester coincé sur de vieux formats pas pratiques pour le futur. C'est la démarche que font la plupart des applications du monde du logiciel libre, donc OpenOffice, mais également beaucoup de suites bureautiques d'IBM et de Sun qui voient venir des marchés potentiels à l'avenir assez importants. Il faudrait que nous autres particuliers prenions aussi l'habitude d'utiliser ces formats-là quand c'est possible pour se protéger nous-mêmes dans le futur et récupérer nos propres données. Ça, c'est fondamental pour chacun. La seconde chose, c'est que grâce à ces nouveaux outils tels Open Document, les gouvernements sont en mesure de rebâtir ou de tout ou partie de leur système d'information sur une base d'égalité des citoyens face à l'administration et en permettant à chacun d'avoir un accès raisonnable à l'information. Donc on pense que c'est quelque chose qui permet de réduire ce qu'on appelle la fracture numérique en France et qui s'est beaucoup plus marqué dans d'autres pays d'Europe, où on regarde de manière très attentive ces questions-là également. Ensuite, au niveau des gouvernements, et on peut faire le parallèle pour un particulier, c'est très important pour une grosse structure de conserver son indépendance informationnelle. le fait de savoir que celui qui peut lire le document est en pratique celui qui le possède, c'est très très grave pour un État quand il ne peut pas être autonome vis-à-vis de l'accès à ses propres informations. Donc c'est un des aspects aujourd'hui majeurs de la politique européenne et de beaucoup d'États. Et la dernière conclusion, c'est n'oubliez jamais qu'il y a beaucoup de débats au niveau des outils. Tout le monde a choisi un outil, préfère un outil, critique le traitement de texte machin, préfère l'outil truc. C'est un des grands débats du logiciel libre au niveau des outils. Mon browser est plus beau que ton Netscape, qui est, etc., etc. L'élément le plus fondamental sur les biens informatiques, sur tout ce qui est numérique, c'est le contenu. Le contenu est beaucoup plus important que l'outil. Et c'est là, s'il y avait une seule conclusion et une question de principe qui dépasse Open Document et qui va vers tous les autres outils, c'est le contenu est plus important que l'outil. Or, le débat d'habitude est sur l'outil. Voilà. Donc, j'ai essayé de rattraper les délais. Donc, si vous avez. J'ai mis quelques liens. Formatouvert.org, donc c'est un site de Thierry Stoer en français qui traite beaucoup de ces questions sur les formats ouverts. L'ODFalliance.org, c'est un site de prosélytisme pour les orienter grandes administrations et grandes entreprises, qui est en anglais. Je vous conseille Wikipédia, qui a beaucoup d'articles à jour sur ces questions-là. Vous tapez Open Document format ou ce que vous voulez, il y a énormément de choses sur Wikipédia sur ces questions-là. Bon, pour référence, j'ai mis oasis-open.org, c'est le site du consortium Oasis. Bon, si vous voulez lire les 700 pages de la norme, mais c'est vraiment pour référence. Puis bien sûr, tous les sites d'OpenOffice et des autres outils. Voilà, je vous écoute. Voilà. Je pense qu'il y a les deux drames pour la pérennité des données. C'est d'une part le format lui-même, la manière dont c'est stocké d'un point de vue, je dirais, algorithmique sous forme de fichiers qui est vraiment pas pratique et éventuellement dont on a perdu la recette de cuisine pour pouvoir les relire. C'est les vieux formats. La seconde chose, c'est qu'en plus, on a des blocages physiques. Donc, le support physique n'a pas été maintenu dans le temps, ou il n'y a pas eu de transfert de données, ce genre de choses, ou carrément, on a mis un dongle dans le passé en croyant que la société qui gérait le logiciel de comptabilité durerait un certain temps. Mais,
oui, c'est important, c'est le contenu.
Alors, les outils qui respectent cette norme, OpenOffice 2, 2.0, enfin les versions 1.9 doivent la lire. La suite bureautique Workplace, c'est un environnement collaboratif et de travail fait par IBM. StarOffice, qui est la déclinaison d'OpenOffice pour Sun. AbbeyWord, une suite bureautique libre. Et KOffice, une suite, donc la suite par défaut de KDE. Les outils de Corel sont en cours de migration. Enfin, Corel a participé à l'élaboration de la norme, donc ils vont faire un effort. Etc. Oui, on a beaucoup parlé de ce plugin. En pratique, tout le monde, l'Europe, à travers EDABC, a envoyé un courrier officiel à un certain nombre de grands éditeurs fournisseurs de la Commission européenne en leur demandant de se préparer à utiliser cette norme qui, un jour, pourrait éventuellement être utilisé. Enfin, le courrier était très poli, leur demander de se positionner par rapport à ce nouveau standard. Microsoft a fait une réponse mi-chèvre, mi-chou. En pratique, tout le monde attend que Microsoft lise ce format. Enfin, il n'y a aucune difficulté pour eux à le faire. Ils savent clairement faire des plugins qui lisent le format XML. Et en ce moment, il est question de plugins que de tierces parties fourniraient pour permettre à certaines versions de traitement de texte Microsoft, toute la suite bureautique Microsoft, de lire ces fameux fichiers Open Document Format. C'est une norme ISO. Le jour où un gouvernement ou l'ensemble des utilisateurs demanderont à leurs éditeurs de respecter cette norme parce que c'est plus pratique pour eux. Je fais confiance à tous les éditeurs qui aujourd'hui n'utilisent pas ce format-là, ils feront en sorte de l'utiliser. Il y a des supports qui coûtent horriblement cher, qui semblent être bon, des histoires de CD-ROM en cristal, etc. Mais bon. Et pour ce qui se fait aujourd'hui dans les entreprises, on ne stocke pas en permanence sur des mémoires de masse en cristal, hein, c'est quand même pour des cas très particuliers. On fait des backups, et c'est des backups tournants. Et il y a des données qui rebondissent d'ordinateur en ordinateur, de backup en backup et de bande en bande, depuis des dizaines d'années. En principe, le métier de tout informaticien dans une grande entreprise, c'est de ne pas perdre de données. Tous les ans, on lui livre des serveurs et il recopie de disque dur en disque dur. Donc c'est pas une réponse très maligne de ma part, mais en pratique, c'est comme ça que ça marche. Ouais. Des recopies. Voilà. Et sur la question, par contre, des transferts de factures, c'est quelque chose de très 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 important et qui a été anticipé par la norme et surtout par les gros acteurs qui sont autour. Une des raisons de pousser le format Open Document, c'est que ce format très très simple, en XML, facilement générable par des machines, permet notamment de créer des documents ayant un look sympa, mais sans passer par la suite bureautique, je dirais, de la secrétaire. On peut directement sortir des chaînes centrales des grosses bases de données, des documents bien présentés et lisibles par tout le monde, sans être bloqué par un outil de saisie un peu compliqué, etc. Donc on peut faire des outils très très simples, à base d'XML, qui génèrent automatiquement des formats, des factures. Ces outils XML, ces formats XML, ces fichiers factures, bien présentables, bien jolis, on n'est pas obligé de les imprimer, on peut les envoyer selon un canal d'échange, peu importe, on piège joindre d'un mail, allez par exemple, soyons simples. De l'autre côté, comme c'est quelque chose de très facile à traiter, on peut l'ouvrir et récupérer les données aussi. Donc on peut quasiment imaginer une chaîne de traitement d'informations de bout en bout, tout en conservant l'illusion d'avoir un document fait pour être imprimé. Par de la crypto, tout ce qu'il y a de plus classique, sauf que c'est pas d'un usage très courant culturellement. Mais le jour où... Oui, c'est autorisé. D'ailleurs, je peux vous montrer, OpenOffice permet même... dans le format OpenOffice, dans le logiciel OpenOffice, il y a une option pour les fichiers que l'on tape, de les crypter. Et en pratique, c'est crypté avec quelque chose qui... Enfin, c'est du GPG, c'est quelque chose de très sérieux. Donc c'est de la crypto forte associée au document. C'est relativement simple. Il y a un certain nombre de champs qui permettent de faire ça ou d'avoir des liens extérieurs ou des métadonnées, d'associer à un document une signature électronique, c'est-à-dire utiliser la cryptographie pour authentifier et signer le document, savoir qui l'a envoyé, et bon, éventuellement en option, le chiffrer pour qu'il ne soit pas lisible par tout un chacun. Mais la question fondamentale, c'est celle pour le comptable de la signature du document. Bon, faut avoir des outils de l'autre côté pour vérifier la signature, etc. Ça demande un certain nombre d'infrastructures et surtout d'usages culturels qui ne sont pas aujourd'hui très, très en vogue. Mais ça va arriver, ça va arriver.
Voilà, bon, il me reste à remercier Jérôme Dumonteil pour sa présentation. J'espère qu'il vous a tous convaincus. Et je pense qu'il a dit des choses importantes, ne serait-ce que savoir comment conserver vos documents et quel sera leur avenir.